La diversification menée par l'enfant avec Paola Pérez.
Première partie de ma présentation, diététicienne nutritionniste. C'est celle que je mets en avant parce que c'est en quelque sorte mon expertise et ça permet de parler justement de la diversification alimentaire. Et en même temps, ça a été mon plus grand frein en la matière. Alors, je vais vous raconter un peu mon expérience. Il y a maintenant quasiment 16 ans de cela, donc ça date. J'ai eu un parcours professionnel en milieu hospitalier où j'ai été effectivement en contact avec différents services et notamment la pédiatrie, la cardiopédiatrie j'ai pratiqué la diététique, je dirais classique. Et puis après, je suis devenue mère. Et mon enfant, mon premier enfant, il a été fabuleux pour ça parce qu'il a permis... C'est cool ? Bon, nickel. La technique est là. Génial. Donc, mon premier enfant a été un maître en la matière et il a été phénoménal pour faire exploser toutes les idées reçues que je pouvais avoir sur l'accouchement, le début de la vie, l'allaitement, le maternage, etc., etc. Et quand a commencé la diversification alimentaire, moi, j'étais avec tout le bagage reçu au cours de mes études. Toutes les normes, tout ce qu'il fallait faire pour que la diversification alimentaire se passe au mieux. Et quand je me suis confrontée à mon expérience de maman, c'est là où, en fait, je me suis retrouvée vraiment, à mon avis, comme beaucoup de parents actuellement, complètement submergée par le vécu, par l'émotion qu'il pouvait avoir et le fait que mon enfant ne correspondait absolument pas, mais alors absolument pas, à ce que j'avais pu apprendre. Donc, j'avais deux choix. Soit j'essayais tant bien que mal de faire entrer mon enfant dans les cases, soit je me remettais en cause, je me remettais en question. Je remettais en question tout ce que j'avais appris et auquel j'y croyais dur comme fer à la limite. Enfin, peut-être pas parce que je suis quand même quelqu'un de qui n'aime pas trop rentrer forcément dans le chemin tracé, mais quand même, c'était la base sur laquelle je m'étais appuyée pendant des années et que j'avais transmis aux parents. Et donc, ça a été assez violent. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'en fait, j'ai les deux casquettes, en quelque sorte. J'ai ma casquette de professionnelle diététique nutrition et ma casquette de maman. Et là, mon avantage, c'est qu'effectivement, en ayant ces deux casquettes et en ayant eu un premier enfant, mais génialissime pour ça, de remettre en cause tout le temps tout, eh bien, ça m'a permis de sortir un peu des schémas. Et cette double casquette me permet de comprendre le vécu des parents. Parce que quand on a un enfant qui ne rentre pas dans les cases, et qu'autour de soi, on peut recevoir des recommandations qui sont à la limite contradictoires avec ce qui se passe dans le réel, le vivant, ce qui se passe là, eh bien, c'est source d'inconfort, de remise en question. On se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Mon enfant, ceci, et la santé future de mon enfant. Je l'ai vécu. Et je l'ai vécu encore plus intensément parce que j'avais ce bagage-là de diététique qui était derrière moi. Et en même temps, ça me permet de comprendre aussi les professionnels de santé qui ont des informations et qui se basent sur ces informations-là pour accompagner les parents. Hormis le fait que potentiellement dans l'expérience du professionnel de santé, il y a cette remise en question parce que l'expérience prouve que ce n'est pas forcément la même chose, ce que l'on a pu apprendre et la réalité. Mais hormis cela, ils ont les mêmes bagages que moi j'avais. Et d'accompagner des parents, notamment des enfants allaités, eh bien, c'est pas forcément évident. Donc, je peux comprendre les deux côtés. Et je peux faire, en fait, la passerelle entre les deux. Toujours est-il qu'en ayant mon fils qui ne rentrait pas dans les cases, eh ben, je me suis mise à, effectivement, à chercher, à regarder, à observer mon enfant, à me renseigner auprès d'autres parents et à déconstruire petit à petit ce que j'avais appris. Et donc, durant toute cette période-là, et bien au-delà, et bien j'ai accumulé beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages. Et maintenant, la diversification alimentaire menée par l'enfant est elle-même quelque chose d'un tout petit peu plus démocratisé. Il y a des ouvrages, notamment aux éditions L'Instant Présent, il y a un ouvrage, La diversification menée par l'enfant, qui est tout récent. Et puis, il y a des blogs, il y a aussi certaines choses sur le net. Mais je vous dis, il y a 16 ans, c'était... Enfin, il n'y avait rien. Donc, en me renseignant, j'ai fait tout un travail aussi un peu anthropologique, je dirais. Je suis allée dans les familles. J'ai filmé les enfants. J'ai filmé les interactions avec les parents pour voir ce qui se passait au concret chez eux. Et ça m'a permis, de petit à petit, d'enrichir les informations, ma formation, et de pouvoir le transmettre. C'est pour ça que je suis là devant vous. Pour vous donner les informations que j'ai. Et mon élan dans tout ce que je fais auprès des parents, c'est vraiment de donner des informations éclairées, enfin de donner des informations pertinentes pour que les parents puissent faire leur choix de façon éclairée, responsable et consciente. Et cette approche de la diversification alimentaire menée par l'enfant remet au centre de tout ce processus l'enfant, dans son unicité, dans sa spécificité. Et votre enfant, potentiellement, ne va pas avoir forcément le même comportement que le vôtre ou que les autres enfants dans cette salle. Mais en ayant des informations, pratico-pratiques pour accompagner son enfant, ça nous permet d'avoir cette façon de nous adapter. Il n'y aura pas de schéma, il n'y aura pas... Enfin, vraiment, si vous vous adressez à moi, je ne vais pas vous dire il faut tant, à tel âge, telle texture, et tant de fois, etc. Ce sera vraiment des informations vraiment générales qui vous permettent de savoir sur quel point il est important de se pencher, et après de vous dire, observez votre enfant. Observez votre enfant. Votre enfant, il est vraiment au cœur de ce processus. Alors, les informations quand même de base, enfin, sur lesquelles, effectivement, on peut peut-être se pencher et se baser, c'est d'abord de connaître un peu le développement et la physiologie de l'enfant et tout ce qui est important à connaître au niveau du développement et de cette transition. Et c'est ce que je vais vous apporter là. Alors, il y aura certaines choses qui peut-être vous paraîtront tout à fait normales. Oui, normales. Il y aura peut-être d'autres informations qui vont vous questionner, qui vont peut-être vous interpeller. Il y aura des informations que je vais vous transmettre qui seront peut-être différentes de celles que vous entendez de façon classique. Ce sera peut-être des informations que vous allez entendre pour la première fois. Ce sera peut-être des informations qui vont aller en l'encontre de ce que l'on vous dit. L'idée est d'aller voir, quoi. Ne me croyez pas sur parole, entre guillemets, mais vraiment expérimenter. D'accord ? Alors, ce que l'on peut vraiment se dire, c'est que effectivement, dans la physiologie du bébé, un nouveau-né, il est nourri par le lait de sa mère. C'est quand même l'allaitement. Alors, effectivement, les laits artificiels sont présents et heureusement qu'ils sont présents dans certaines situations. Simplement, la physiologie, c'est effectivement un bébé nourri au sein de sa mère. Et quand on envisage la diversification comme le prolongement naturel de l'allaitement, ça donne des clés pour l'aborder. Quand on revient à l'allaitement, un bébé, quand il est allaité, on lui fait confiance. On fait confiance dans combien de tétés par jour, à quel rythme, le temps d'une tétée, est-ce qu'il va téter d'un seul sein, les deux seins, etc. On ne va pas se dire non, mais il faut quand même restreindre. Enfin, oui, on peut se dire, il y a des personnes qui disent oui, il faut allaiter pas plus de toutes les 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin, bon, il y a effectivement des informations qui vont dans ce sens-là. Ceci dit, c'est absolument pas la physiologie. D'accord ? Et donc, la diversification, elle peut se voir comme le prolongement de l'allaitement. Tout comme pour l'allaitement, si jamais dit, bon, bah, mon bébé, il ne sait pas. Il faut que je lui dise. Il faut que je fasse à sa place. Et bien, la diversification, ça peut être la même chose. Votre bébé, il sait exactement quand est-ce qu'il a faim. Il a, au niveau de son anatomie, enfin, de la physiologie, plein de capteurs qui lui disent exactement au niveau de la satiété ce qu'il en est. Des fois les parents, les mères témoignent que après une tétée, le bébé peut réclamer, mais juste pour, allez, 2 minutes. Et après, c'est tout. En fait, c'était les 2 minutes dont il avait besoin. D'un regard extérieur, on peut se dire, non, mais il vient de tétée, là, il réclame encore, enfin. Mais en fait, l'enfant, il sait. Il sait. Juste pour information, il y a des cellules, des capteurs au niveau de la bouche qui en fait, sont comme des laboratoires qui savent exactement quel taux en lipides, etc., est contenu dans le lait et qui peut permettre à l'enfant de savoir si, effectivement, il va rester sur un sein pour aller chercher le lait de fin de tétée, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un peu ça. Ou pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'enfant, c'est, enfin, la nature, c'est juste un truc de dingue. Si on s'y penche, et ben, c'est la même chose. Pour la diversification, on peut se dire que c'est la même chose. L'enfant sait. Par contre, l'enfant sait, mais c'est en relation avec l'environnement. C'est-à-dire que si un enfant qui a effectivement toutes ses capacités de savoir exactement ce dont il a besoin, a devant lui un plateau avec, je caricature, hein, mais avec des chips, des biscuits, des sodas, eh bien, il va faire ce choix à travers ce plateau. Et ça sera tout à fait différent d'un enfant qui aura devant lui un plateau avec des aliments de qualité, nutritivement, au niveau de la saveur, au niveau de la provenance, etc. Donc, en fait, ce qui est important à avoir en tête, c'est que vous, votre rôle en tant que parent ou en tant qu'adulte référent ou même en tant que professionnel qui accompagnait les parents, c'est de donner des informations sur l'alimentation à destination, enfin, ou de recevoir ou de vous renseigner sur l'alimentation pour vous en tant qu'adulte et ce que vous allez offrir à votre enfant. Et ça, je trouve que c'est une réflexion à mener qui est très intéressante parce que c'est au travers des enfants et au travers de la diversification alimentaire que l'ensemble de la famille peut réfléchir à l'alimentation. Donc c'est un peu le deuxième effet qui se coule. Premier effet, on se penche sur la diversification alimentaire de l'enfant. Et en fait, le deuxième effet, on change l'alimentation de toute la famille. Donc ça, c'est cool. Cette réflexion-là, on peut l'amener en amont ou on peut l'amener au moment où l'enfant commence à se diversifier. Il y a beaucoup de parents qui me disent Oui, alors moi, je mange très mal. Enfin, je mange pas super bien équilibré. Mais mon bébé, je lui prépare des purées bio, machin, truc, machin. Je vais chercher des produits au marché parce que je vais lui donner le meilleur. Alors je dis, c'est génial. Dans l'absolu, c'est une démarche tout à fait honorable. Simplement, à terme, votre enfant, il va bien falloir qu'il mange avec vous à un moment ou un autre. Et il va partager vos repas. Donc, si vous mangez mal, entre guillemets, et après on peut réfléchir à qu'est-ce que c'est manger de façon justement optimale, je dirais, ou en tout cas d'avoir cette réflexion-là, ben, si vous mangez des choses complètement déséquilibrées, forcément, votre enfant, à un moment ou un autre, va manger la même chose que vous. Donc, autant réfléchir à ce moment-là de qu'est-ce que vous voulez transmettre, quelles sont les valeurs que vous voulez donner, parce que l'alimentation, c'est pas que nutritionnel, on est d'accord, il y a toute une culture, il y a un échange, surtout dans notre société où vraiment les repas sont pris en commun, où il y a vraiment un partage, eh bien tout ça, c'est des choses que vous allez transmettre à travers les repas. Tout comme vous allez transmettre aussi une façon d'appréhender l'alimentation. Si vous... Enfin, un enfant est en construction et c'est à travers ce que vous allez lui proposer, la façon dont vous allez aborder l'alimentation, que lui va se construire. Il va se construire dans son rapport à l'alimentation. Donc c'est vraiment un moment génial pour aborder tous ces thèmes-là. Donc, globalement, un bébé, il a besoin du lait maternel pendant les 6 premiers mois. D'accord ? La diversification se fait aux alentours de la moitié de l'année, enfin de la première année, je veux dire. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est un sevrage qui va se faire dans la durée, un sevrage du lait maternel. Ceci dit, l'enfant, il a besoin du lait pendant les premières années de façon importante. Donc, le début de la diversification alimentaire, il va se faire avec l'optique que l'alimentation solide va être en complément du lait. Ça ne sera pas en remplacement du lait. Ça va être une découverte de. D'accord ? Souvent, on dit que la diversification alimentaire, c'est les 2 premières années, enfin, jusqu'aux 2 ans. Mais moi, je me dis que la diversification alimentaire, on la fait tout le temps. Le nombre d'adultes qui découvrent un aliment, heureusement qu'on s'est pas arrêté à 2 ans. Sinon, il y en aurait des choses qu'on n'aurait pas testées, qu'on n'aurait pas savourées, etc. D'accord ? Donc là aussi, ça permet de relâcher la pression. La diversification, elle se fait au fil des années et au fil des rencontres, des expériences de vie. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je continue à apprendre des choses, à connaître des choses. Surtout dans notre monde où les informations circulent, le nombre d'aliments que j'ai connus ces dernières années est très important. Donc voilà à peu près pour déjà l'état d'esprit, c'est-à-dire que la diversification alimentaire, elle se fait vraiment en complément. Après, chaque enfant est différent et le moment de la diversification alimentaire peut se faire de façon assez large, c'est-à-dire quand je vous dis la moitié de la première année, c'est comme ça, c'est à peu près, d'accord ? Par contre, il y a des signes qui peuvent vous aider à vous appuyer. Un des signes, c'est que l'enfant puisse se tenir assis tout seul. Ça veut dire que dans son développement, il a déjà une certaine maturité au niveau postural. Un autre signe, c'est que l'enfant va de lui-même réussir, de façon consciente, hein, je veux dire, prendre quelque chose et le mettre à la bouche. Parce qu'il est, il a une certaine autonomie par rapport à cela. Un autre signe, c'est qu'il s'intéresse à ce qui se passe. Okay. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre du développement de ce qui est ce qui se passe à l'intérieur de la bouche, je dirais. C'est-à-dire que téter, c'est une fonction. C'est une façon de faire. Manger en est une autre. Ça ne va pas être du jour au lendemain que l'enfant va apprendre à mâcher, à mastiquer, à avaler. Ça va se faire petit à petit. Ceci dit, c'est aux alentours de la première année que commencent à se mettre en place ces capacités-là, ce développement, ce niveau de développement. Et plus l'enfant va être amené à, justement à s'exercer, et plus la maturation va se faire. D'accord ? À travers ces différents signes, vous allez déjà pouvoir savoir un peu quand est-ce que votre enfant est prêt ou pas. Souvent, les parents voient que l'enfant est très intéressé. C'est-à-dire que vous êtes en train de manger, ils sont en train de regarder comme ça le passage de l'assiette jusqu'à la bouche du genre oh! Et il suit la trajectoire. Ok ? Ou bien il va regarder sur la table, il va essayer de choper tout ce qu'il y a. Et les parents se disent, ah ben il est prêt, ça y est, c'est le moment. C'est pas tout à fait le moment. Dans le sens où les enfants, ils vont prendre de façon totalement indifférenciée, que ce soit la serviette, la cuillère, la nappe, l'assiette. Et du coup, c'est pas du tout qu'il est en âge de manger. C'est juste que sa compréhension du monde passe par le fait de le mettre à la bouche. D'accord ? Ce qui participe aussi au fait de commencer à comprendre comment faire. D'accord ? Mais c'est pas tout à fait qu'il a besoin de commencer tout de suite. Forcément. C'est une petite nuance, mais qui est intéressante parce que, par exemple, quand c'est un petit peu tôt, on va proposer quelque chose à l'enfant et l'enfant va faire... Alors, au micro, ils ne vont pas vraiment bien comprendre ce qu'ils vont entendre, mais parle avec des mouvements en fait, de langue, les choses qui rentrent dans la bouche vont ressortir. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune et que je gardais des enfants, je me souviens parfaitement de donner la cuillère, de racler tout ce qui sortait, de redonner, de racler, de redonner. Et au bout de la quatrième fois, on peut se dire que quand même, ce qui était à l'intérieur de la cuillère est passé, a été avalé. Mais c'est quand même au bout de 4 ou 5 fois, d'accord ? Eh bien, ça, c'est typiquement le signe que l'enfant n'est pas prêt. Et pourtant, je me souviens que je les ai fait manger, hein, les enfants. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas encore les capacités pour le faire. Ça, c'est un signe, vous voyez. Ça vous permet de savoir si votre enfant, il est prêt ou pas. Et c'est votre enfant qui va pouvoir vous le montrer. D'accord ? C'est pas le calendrier... Sur le carnet de santé, ou si c'est pas parce qu'il aura 5 mois et un jour. Voilà, mais ça va se faire petit à petit. D'accord ? Donc ça, c'est un peu pour savoir quand est-ce qu'on commence. Après, souvent, les parents, ils se posent la question de savoir par quoi on commence. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? J'aime bien être sur les réseaux sociaux et souvent je vois des questions des mamans qui disent oh, je sais pas, est-ce que j'ai... Alors là j'ai commencé avec de la carotte, alors combien de jours j'ai resté à la carotte, et puis après est-ce que je fais les haricots verts, ou alors je sais pas, est-ce qu'il faut que je commence par de la compote, ou Et les mamans, elles sont perdues. Elles savent plus. Elles savent pas. Et c'est entretenu aussi par les recommandations que l'on peut lire à droite et à gauche, ou les informations sur les étiquetages. Bref. Moi, la proposition que je vous fais, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'en fait, votre enfant, surtout s'il est nourri, enfin s'il est allaité, votre enfant, à travers le lait, il se diversifie déjà. Il a déjà les saveurs, il a déjà tout ce patrimoine-là qu'il avait déjà in utero via le liquide amniotique. Au cours de l'allaitement, la même chose. Ce que vous mangez passe par le lait. Même les molécules volatiles, les goûts passent. Et c'est ça qui est génial, parce qu'un enfant allaité, en fait, tous les repas sont différents. Imaginez avec le lait artificiel, c'est toujours la même chose. 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Les semaines, les mois, les années, toujours. Là, c'est différent. D'accord ? Et alors, ce que je vous propose plutôt, c'est de réfléchir à votre alimentation. Qu'est-ce qui est justement sain, bénéfique pour l'organisme, pour le développement, etc. de vous, déjà. Et à travers ce que vous allez proposer, bah, vous allez continuer, juste continuer à proposer. Il y a quand même certains éléments qui sont importants à avoir. C'est par exemple le sel et le sucre. Dans l'approche de la diversification alimentaire menée par l'enfant, il y a une proposition qui est de préparer votre repas sans mettre de sel. Faire la même chose pour vous et votre enfant. De convier votre enfant à la table bien avant la diversification alimentaire, pour qu'il voit ce qui se passe, pour qu'il sente. Et au moment où de lui-même il va venir piocher, ben vous allez le laisser piocher. Si vous, vous voulez avoir un peu plus de sel, ou un petit peu plus d'épices, ou un petit peu plus de piment, etc., vous pouvez très bien envisager une assiette, avoir la partie la plus proche du bébé sans sel, et la partie la plus extérieure, où vous allez rajouter un petit peu de sel, un petit peu d'épices, etc. Mais l'idée dans l'absolu, c'est qu'effectivement, si vous envisagez cette transition, c'est pas mal pour vous aussi. Souvent, on dit qu'effectivement, on mange trop salé. De diminuer le sel, à travers cette, justement cette réflexion-là, ça peut être sympa. D'accord ? Du coup, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Plus besoin d'avoir un baby cooker, un mixeur machin, un truc. Pas besoin de faire des courses différentes pour l'enfant. Faites-vous plaisir. Réfléchissez quand même à ce que vous allez manger. D'accord ? Parce que c'est ce que vous allez donner à votre enfant. Et puis, vous faites la même chose pour tout le monde. Et l'enfant va piocher. D'accord ? Ça, c'est effectivement, je trouve que c'est une approche qui permet de simplifier la vie, de redonner la confiance à l'enfant, de se donner aussi confiance, et de savoir que, de toute façon, tant que l'enfant est allaité, c'est que du bonus. Il n'y a pas de pression à avoir. À partir du moment où l'enfant a accès au sein de façon libre et non limitée, je dirais. D'accord ? Alors, pour l'alimentation de la famille, qu'est-ce qui pourrait être optimal, justement ? Je dirais qu'il y a du bon sens, et puis il y a du bon sens. Globalement, une alimentation diversifiée permet de couvrir quand même la plupart de nos besoins. Même si, effectivement, nous sommes dans une société où la qualité des aliments diminue du fait de l'appauvrissement des sols, etc. Mais ceci dit, si vous êtes dans le salon prime vert, c'est que vous avez déjà une démarche vers potentiellement des aliments qui sont nutritionnellement plus intéressants. Avoir une réflexion sur la provenance des aliments. D'accord ? Donc, varier, que ce soit effectivement beaucoup de végétaux, légumes, fruits, crus de préférence, ou très peu modifiés. Et là, quand je dis ça, souvent les parents se disent « Mais oui, mais pour mon enfant, je ne vais pas lui donner cru. » Parce qu'effectivement, on a en tête les purées, les machins, les compotes, tout est cuit. Mais en fait, vous pouvez très bien commencer la diversification alimentaire avec aussi des aliments crus. Il y en a certains qui sont plus accessibles que d'autres, on est d'accord. Par exemple, manger une banane, c'est simple. Dans les légumes, il y a aussi des légumes qui sont accessibles aussi de façon crue. Même une courgette, si vous la râpez, c'est quelque chose qui peut être pris par un enfant petit. Si vous êtes amené à cuire des légumes, je vous invite plutôt à les faire cuire dans leur forme originelle, je dirais, pour que l'enfant puisse prendre avec les mains. Alors au départ, ne vous attendez pas à ce que ça soit propre, entre guillemets. D'accord ? L'enfant, il va en mettre un peu partout. Il va y en avoir surtout à l'extérieur, un petit peu dans la bouche, un petit peu. Qu'on retrouve parfois dans les couches telles quelles. Mais c'est OK. Ça participe à. D'accord ? Donc, pas besoin de faire forcément tout en purée. Vous pouvez faire aussi en purée. Je ne vous dis pas ne jamais faire de purée. Mais simplement, ce n'est pas le passage obligé. D'accord ? Ce qui est important pour l'enfant quand il est allaité et chose qui va un peu à l'encontre de ce que l'on peut lire, ce que l'on peut entendre, c'est que c'est important de donner un peu de viande ou équivalent dès le début. Je ne dis pas que le lait maternel est carencé en fer ou en je ne sais pas trop quoi, non. Mais c'est simplement qu'il y a un élément, notamment dans la viande ou équivalent, qui est le zinc, qui, s'il y a une carence, entraîne de l'inappétence. Ça veut dire qu'il entraîne le fait qu'on ne mange pas. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et souvent, moi j'ai des parents qui viennent me voir parce que la courbe de poids n'est pas optimale. Et quand je creuse, c'est juste le fait que l'enfant a très peu accès à la viande ou équivalent. Et quand on redonne un peu de complément de zinc, hop, ça repart dans l'autre sens. Donc la viande ou équivalent, souvent on voit... pas avant 7 mois, pas avant 8 mois, pas avant 9 mois. Moi, je dis tout de suite. Tout de suite, un petit peu. Tout de suite, un petit peu, et vous allez voir. Il y a certains enfants qui vont avoir envie d'en manger à certaines périodes beaucoup. Il y a d'autres moins. C'est OK. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ce que ça soit pas, le goût ne soit pas altéré par le sel, par exemple. Parce que comme il y a une appétence au sel, eh bien, quand c'est salé, quand c'est gras, ben, l'enfant va aller vers ça. Parce que instinctivement, l'être humain va être attiré par ce qui est salé, par ce qui est gras, par ce qui est sucré. Parce que dans la nature, ce qui est salé, ce qui est sucré, est caloriquement plus intéressant. Donc en fait, on est programmé pour ça. Et si on rajoute du sel, ça biaise en fait notre instinct, je dirais, ou l'instinct de l'enfant. D'accord ? Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur comment, par quoi commencer. En fait, c'est vous commencez rien en quelque sorte. Vous continuez à manger et vous lui proposez ce que vous avez dans l'assiette. La même chose dans certains ouvrages. On peut avoir des indications sur le moment d'introduire tel ou tel aliment. Moi, ça me fait... Ça, comment dire je, ça m'interpelle toujours parce qu'en fait, quand je regarde ailleurs dans le monde, des choses qui sont nous, chez nous, culturellement marquées comme étant à introduire plus tard, les enfants les mangent depuis le début de la diversification alimentaire. Et du coup, je me pose la question, oui, alors ça veut dire que sur tel continent, en fait, le tube digestif est différent, c'est ça ? A priori, non. Donc, c'est juste culturellement. Et par exemple, les légumineuses, sur d'autres continents, ça fait partie de l'alimentation de base. Et les enfants, quand ils vont être diversifiés, vont avoir accès à ça. Alors, il y a certaines légumineuses qui sont plus ou moins faciles à digérer. Parfois, on peut retrouver effectivement dans les couches. Mais tout comme on va retrouver des morceaux de carottes. D'accord ? Donc, je ne vois pas pourquoi retarder forcément tel ou tel aliment. D'accord ? Mais c'est plus en fonction de ce que vous mangez, vous. Alors, attendez. Si vous voulez poser une question, en fait, il y a un micro et Sophie, que je remercie, passe le micro.
J'ai pas compris à partir de quand les légumineuses, c'est possible ?
Mais en fait, les légumineuses, dans l'absolu... Alors, il y en a certaines qui sont peut-être plus faciles à digérer. Par exemple, les lentilles corail, la pellicule qui est autour, elle est beaucoup plus fine. Donc, ça pourrait être tout de suite. Mais par exemple... Ah, tout de suite, 5 mois et demi, 6 mois, 6 mois et demi, enfin, au début, quoi. Surtout que la lentille corail, quand on la fait cuire, ça devient vraiment de la purée, hein. D'accord ? Mais par exemple, le pois chiche. Eh bien, le pois chiche, il y a le houmous. Bah, le houmous, l'enfant, il pourrait très bien... Vous voyez, dans certaines parties du monde, en fait, ce genre de préparation-là fait partie de l'assiette. Et l'enfant, il va piocher. Il va piocher.
Je rebondis sur les pois chiches. C'est aussi la trappe des pois chiches, c'est qui se les met comme ça dans...
Alors, s'ils sont bien cuits...
Il n'y a pas de risque de fausse route.
Alors, c'est super parce que ça va reprendre... je vais rebondir là-dessus. C'est effectivement la question, c'est... le pois chiche, le fait qu'il soit entier. Alors déjà, d'une part, je vais vous dire un petit peu ce qui peut se passer dans d'autres pays, sur d'autres continents. La diversification alimentaire et notamment la façon de donner à manger à l'enfant peut varier. Et notamment, il y a certains pays où la mère ou l'adulte prémâche et donne. D'accord ? Donc, vous pouvez très bien écraser avec une fourchette, mais de façon sommaire pour que l'enfant... Enfin, ce n'est pas forcément de la purée. Ça peut être juste écrasé ça, c'est intéressant. S'il ne l'a pas dedans, il est nécessaire d'écraser un aliment. C'est ça, hein ?
Oui. Et puis, pour la viande, vous n'avez pas dit la viande à tel âge ? À quel âge ?
Alors, je vais répondre aux deux questions,
oui,
d'accord ?
Oui, oui.
Alors, pour la texture, il y a certains enfants qui ont leurs premières dents à plus d'un an,
oui.
Et d'autres qui les ont à partir de 4 mois.
Oui.
Là aussi, je me dis, si on attend que l'enfant ait des dents pour qu'il puisse manger une texture plus proche de ce que l'on mange nous, vous voyez, il y a certains enfants, on attendrait plus d'un an. En fait, la texture en tant que telle n'est pas en soi un critère important. Il y a certains aliments, par contre, pour lesquels c'est... Par exemple, la carotte, c'est soit carotte râpée, soit carotte cuite, mais entière. Mmh. Pas carotte crue, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais enfin, s'il n'a pas de dents...
Je peux vous dire que... Alors, déjà, d'une part, effectivement, on peut retrouver dans la couche des morceaux.
Oui.
OK ? Mais en soi, c'est pas un souci particulier. D'autre part, les enfants, ils vont mâcher avec leurs gencives. Ils n'ont pas, enfin, ils vont, enfin, quand ils auront une, quand ils ont une dent, ça va pas leur, enfin, vous voyez ce que je dirais. Mmh. Et ça va participer à la maturation de tout ce développement-là. C'est-à-dire que un enfant à qui on donne des purées va bien sûr manger comme vous et moi, hein, à terme, je veux dire. Mais par contre, son développement au travers de la diversification alimentaire ne va pas être le même qu'un enfant qui aura accès à des morceaux. Parce que l'enfant qui aura accès à des morceaux va s'exercer à. Tout comme un enfant à qui on laisse l'opportunité de lui-même prendre et mettre à la bouche, de lui-même prendre les couverts, ça participe à intégrer cela. D'accord ? Donc, les morceaux peuvent être donnés tout de suite. Ça peut commencer par, effectivement, une carotte cuite en entier ou un brocoli. Souvent, c'est pas mal, les brocolis, parce qu'il y a le tronc du brocoli que l'enfant peut prendre. Et alors, je ne vous dis pas qu'il va tout manger. Non, non. Tout comme la carotte. Il va y en avoir les 4/5 dehors, peut-être un petit peu à l'intérieur, mais ça participe à l'apprentissage.
Et là, vous avez parlé de la viande, là, parce que la viande, j'ai lu dans un bouquin que c'était dangereux d'en donner au bébé. La viande, le poisson, le fromage, tout ça.
Alors, il y a deux choses. Premièrement, nous sommes dans une société où effectivement la référence c'est le lait artificiel et le biberon, d'accord ? Dans cette avec cette référence là, le lait artificiel il est extrêmement difficile à digérer parce qu'il n'est pas physiologiquement adapté, d'accord ? C'est le lait d'une autre espèce. Donc voilà. Et malgré tous les efforts des industriels pour aller vers, malgré tout, c'est pas comparable, tout simplement. Et notamment au niveau des protéines, la charge est beaucoup plus importante que le lait maternel. Les reins sont beaucoup plus sollicités avec du lait artificiel que du lait maternel. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, il est important que l'enfant, dans son alimentation diversifiée, enfin son alimentation complémentaire, je dirais, il est important que l'enfant n'ait pas trop de protéines qui viendraient surstimuler, surcharger leurs reins. Donc effectivement, pour un enfant nourri au lait artificiel, il est pertinent de faire attention à la charge des protéines, et notamment des protéines animales, qui est plus conséquente.
Mais non, mais je vous ai dit que dans un livre, j'ai vu que la viande était dangereuse pour les bébés.
C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que pour un enfant dont le critère, c'est le lait artificiel, c'est pas que c'est dangereux dans l'absolu, mais c'est qu'effectivement, ça surcharge ses reins. Ses reins sont surstimulés.
La viande aussi, c'est...
Ben, dans la viande, c'est les protéines qui... voilà. Pour un enfant qui est allaité, il n'y a pas ce souci au niveau des reins.
Mais non.
Et donc, du coup, il peut avoir accès à de la viande.
À la viande ? Ah non. Je vous ai dit que
C'est pour ça que je vous disais en début de conférence que ce que je vais dire va interpeller, va peut-être être à l'encontre des recommandations que vous pouvez avoir à droite ou à gauche. Et je suis OK avec ça.
Ma belle-fille, elle est végane, son bébé est végane.
Si vous voulez, ça, c'est un choix. Ceci dit, moi, je vous dis juste, dans mon expérience et dans l'approche dans ma pratique, j'ai souvent des enfants qui viennent... Enfin, j'ai parfois des parents qui viennent parce que l'enfant a une courbe de poids qui... Et au final, quand je creuse... Il y a le fait que l'enfant n'a pas accès à la viande ou équivalent. Et le fait de redonner du zinc permet de relancer la machine. Essentiel, oui, il y en a un peu, mais l'apport le plus important se trouve quand même dans la viande ou le poisson. Je vous dis pas d'en prendre. Enfin, comment dire. Après, on rentre dans un débat qui est plus philosophique qu'autre chose. Moi, je vous dis juste ma pratique. Après, je peux entendre. Hein, et j'accompagne des parents qui sont végétariens, véganes. C'est OK. Si tout est OK, j'ai rien contre. Simplement, voilà.
Bonjour, je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu de la gestion justement des fausses routes, enfin entre guillemets. Merci.
Alors, les fausses routes, déjà d'une part, c'est important que l'enfant soit en présence d'adultes quand il mange. Voilà, on ne laisse pas un enfant, un tout petit, manger tout seul, sans surveillance. Être présent, c'est important. Il y a certaines choses, comme je vous ai dit, par exemple les carottes. On ne va pas laisser une carotte crue parce que c'est des morceaux qui sont très durs. L'enfant ne, voilà, il pourra pas faire quelque chose avec. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'enfant, il a un réflexe. Tout comme quand je vous disais que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est-à-dire que là. L'enfant va avoir des mouvements, voilà, qui permettent de faire sortir ce qu'il n'a pas à avoir, quoi. Eh bien, il y a des réflexes quand ça va trop loin et que l'enfant n'arrive pas à faire avec, je dirais. Il y a ce réflexe-là et donc du coup. Ça peut être impressionnant pour les parents, mais enfin, l'enfant tousse et rejette. Ça, c'est un réflexe. D'accord ? Donc, effectivement, potentiellement, au cours d'un repas, il peut y avoir un enfant qui va prendre un truc et puis il ne va pas savoir quoi faire. Il y aura ce réflexe-là. Et tant mieux. Donc, la vigilance d'être présent. Et surtout faire confiance dans ce réflexe-là qui est présent. Mais c'est vrai que souvent les parents, quand ils voient la première fois, ils se disent. Mais c'est un réflexe. Ouais. Bah écoutez, voyez, les carottes, les cacahuètes. Enfin bon, il y a certaines choses. Voilà, dans tous les cas, les cacahuètes, jusqu'à l'âge de même beaucoup plus âgé, on évite parce que. Ça peut passer. Voilà. Voilà, globalement, un peu ce qu'il en est. Pardon ? Ah ouais, je crois que c'est à 5 ans ou un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment plus âgé. Ouais. Et puis bon, les cacahuètes, c'est pas forcément l'aliment indispensable dans l'absolu. On peut en faire on peut faire sans, quoi. Alors, c'est vrai qu'on a maintenant une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure, pour justement partager. Au fond, il y a Claudia des éditions L'Instant Présent qui met à disposition le livre « La diversification menée par l'enfant ». Et j'ai aussi une vidéo... Parce que là, effectivement, le souci, c'est que ma conférence aurait été encore plus pertinente avec des vidéos. Je vous aurais montré des enfants. Je vous aurais montré ce qui se passe. Là, je vous dis, alors intellectuellement, peut-être que vous l'avez compris, mais ce n'est pas la même chose que de voir. Ça, c'est sûr. Et donc, j'ai mis à disposition, essentiellement à destination des professionnels de santé, une vidéo où, effectivement, on voit ce que je vous dis, que l'enfant, il est prêt ou pas prêt, le fait qu'il s'intéresse à tout, que ce soit la serviette, le verre, tout ça. Le fait qu'il y ait ce réflexe de, comme ça, plein de petites séquences qui donnent des informations aux professionnels de santé pour qu'ils puissent le montrer aux parents ou que ce soit un support de discussion, etc., pour accompagner au mieux. Avec le DVD, il y a un livret pédagogique où il y a des recommandations à partir de quelle... Enfin, les recommandations nationales et internationales, les suggestions. Et puis un livret, un autre livret pédagogique dans la description de la vidéo et les points sur lesquels il est intéressant de se pencher. C'est-à-dire que moi, qui ai fait la vidéo, etc., pour moi, c'est limpide que là, c'est important de dire « Oh, regardez, c'est intéressant, parce que là, les mouvements de l'enfant, c'est encore des mouvements de tétée, de succion. C'est pas encore tout à fait les mouvements de mastication. Regardez, c'est... mais, parce que c'est ma vidéo, c'est mon sujet. Mais je comprends très bien que les professionnels de santé aient besoin d'indications pour dire « Bah voilà, à telle minute... » Ça, c'est intéressant à relever pour en parler avec les parents. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour dire que je me suis donné le challenge de proposer un programme en ligne destiné aux parents autour de la diversification alimentaire avec des informations, des vidéos pour que, voilà, ça se... que bah, chaque parent puisse repartir avec des trucs vraiment pratico-pratiques. Et aborder ça de façon sereine et consciente. Et donc, j'ai fait une offre promotionnelle pour le salon de la Prime Vert à cette occasion. Voilà. Mais voilà, on a encore une demi-heure, donc je vous invite à partager peut-être vos appréhensions ou votre vécu ou les questions que vous vous posez.
Moi, j'avais une autre question par rapport aux enfants quand ils ne sont pas tout à fait prêts. Mon petit, il a 6 mois et c'est vrai que ça fait un mois qu'on voit bien qu'il a envie. Et en fait, je ne connaissais pas ça, donc je lui ai gentiment donné des purées et effectivement, ça ressort.
Oui.
Voilà, bon, de moins en moins. Mais... Et du coup, hier, j'ai vu ça, je lui ai donné une banane et ça a fait exactement...
Oui.
Voilà, donc c'est ressorti, pareil pour le pain. Et je me dis, mais est-ce que j'attends encore un peu? Est-ce que... Oui, quand ils ne sont pas encore prêts, mais qu'ils ont envie... Qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, vous lui permettez d'avoir accès. Juste vous permettez d'avoir accès. C'est-à-dire que vous continuez. Vous pouvez aussi l'avoir sur vos genoux et que lui, il prenne. Et enfin, je reviens toujours à la carotte. Ça peut être pas mal parce que c'est quelque chose qui se délite quand même dans la main. Et que l'enfant peut quand même porter à la bouche, il peut avoir un petit peu. De toute façon, la diversification alimentaire à cet âge-là, c'est juste une ouverture vers des saveurs, des textures, la façon de s'alimenter qui va progressivement devenir quelque chose de plus important. Mais du moment que l'enfant ait accès, c'est ça l'essentiel. Ça peut être les deux. Vous savez, dans d'autres cultures, c'est vraiment la mère qui prend à la main. Du coup, le fait de prendre à la main permet de ramollir pour le donner à l'enfant. Ça peut être, comme je vous ai dit, prémâché pour le donner. Ça peut être plein de choses, plein de façons. Donc, l'essentiel, c'est de permettre à l'enfant de... Parce que je sais qu'il y a certains parents qui ont l'information comme quoi c'est pas avant tel âge ou... en caricaturant, il y a certaines mères qui veulent garder l'allaitement. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans jugement du tout, hein. C'est pas là le propos. Mais du coup, l'enfant n'a pas forcément accès parce que ça peut être aussi des parents qui ne mangent pas avec l'enfant. Donc, l'enfant, il n'a jamais accès. Il n'est jamais invité au repas. Si l'enfant, il a accès et que... Qui fait ses propres expériences et c'est OK.
Du coup, bonjour, j'ai deux questions. Une sur les produits laitiers, mais avant ça, je rebondis sur ce dont vous parlez juste à l'instant. C'est l'expérience de l'enfant dans le fait de se nourrir lui-même. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage à le laisser se nourrir par lui-même plutôt que lui donner ce qu'on fait, j'ai envie de dire naturellement, pour qu'il puisse se nourrir d'autres aliments que le lait. Moi, en tant que parent, je donne à mon fils, mais il a 10 mois demain. Je ne le laisse pas encore, enfin, il n'y arrive pas à mettre lui-même la cuillère à la bouche. Est-ce qu'on doit, ou quel avantage il y a, à le laisser prendre un aliment et le mettre à la bouche, hein? Et à partir de quel moment, quel signe sont porteurs par rapport à ça?
Il y en a plusieurs davantages. Le premier avantage, c'est de se faciliter la vie, je dirais. C'est-à-dire que l'enfant, il est un peu, il participe lui-même. C'est-à-dire que c'est pas que à travers le fait que vous lui donniez à manger qu'il mange. Donc c'est aussi une façon de s'alléger un peu, quoi. Deuxième avantage, c'est que ça va lui permettre de s'exercer. Plus il s'exercera. Alors au début, c'est normal qu'il en mette de partout, c'est normal qu'il n'y arrive pas, c'est normal que... C'est normal. Mais plus il le fera, plus il y arrivera. Et j'ai des séquences vidéo d'enfants de 7 mois, 8 mois qui mangent, entre guillemets, proprement, enfin, j'aime pas ce terme parce qu'il y aurait du propre et du sale, mais vous voyez, plus il s'exercera, plus ça sera simple pour lui. Il y avait une question aussi devant mes...
J'avais juste envie de répondre aussi à cette question. Bonjour, merci pour l'intervention. Donc j'avais envie de répondre à la maman. Donc je suis maman, j'ai fait de la DME avec mon premier. Pour moi, le grand avantage de la DME aussi, c'est que l'enfant, il va prendre les quantités de protéines, de légumes, de fruits et de féculents dont il a envie, dont il a besoin aussi par moment, parce que par moment, il mange énormément de féculents et à d'autres moments, ça va être plutôt des légumes, etc. Alors que dans les purées, on a tendance à mettre une patate, tant grammes de viande, tant grammes de légumes. Alors que justement, en DME, l'idée, c'est de... on met tout sur la table et l'enfant, il pioche. C'est ça aussi quand on dit de faire confiance à l'enfant. Et c'est là où il est vraiment autonome aussi, dans ce sens-là.
Juste autre chose que je voulais souligner, c'est que le fait de prendre à la main participe à la digestion. Vraiment. Le fait de pouvoir voir ce que l'on va manger... participe à la digestion. Ça donne des informations à notre corps dans qu'est-ce que je vais mettre en place pour digérer. Si c'est une purée mélangée de... ne donne pas les informations nécessaires à l'enfant pour savoir telle enzyme, tel machin. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait de voir que concrètement, c'est une carotte... Alors, la première fois, l'organisme ne va pas faire le rapprochement entre ce que je vois, une carotte... et qu'est-ce que je dois à l'intérieur faire. Mais avec l'expérience, quand je vois une carotte, c'est comme vous quand vous voyez un truc, vous salivez, vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ce processus qui est présent quand on reconnaît les choses. Et on le reconnaît par la vue, on le reconnaît par l'odorat, on va le reconnaître aussi par le toucher. Le fait de manger avec ses doigts, ça participe. Alors, c'est vrai que nous, on mange plus trop avec nos doigts. Mais avant, on mangeait avec nos doigts. Voilà.
Moi, je parle aussi de mon vécu, pardon. Mon fils qui va avoir 1 an, pareil, j'ai commencé la diversification alimentaire en lui donnant des purées, d'abord de la carotte, d'abord... Et puis, en fait, vite, il en a eu marre. Parce qu'il me voyait manger autre chose que ce qu'il avait, ce que moi je lui donnais. Et en fait, je lui donnais son truc et finalement, il voulait manger ce que j'avais. Et il essayait de manger ce que j'avais dans mon assiette. Donc, c'était double dose en plus. Donc, finalement, j'ai commencé à lui donner des petits morceaux de légumes très bien cuits et des choses comme ça. Et depuis, il mange que comme ça. Il mange tout seul et c'est parfait. Alors, il en met partout, effectivement. Donc, on a un drap pour sous la chaise haute et un bavoir avec des manches et voilà. Mais du coup, c'est super pour lui parce qu'en plus, on voit ce qu'il préfère, il trie, après il remange, après il en donne un peu à tout le monde parce qu'il veut partager. Et c'est franchement, je ne regrette pas d'avoir tenté ça. Et maintenant, quand j'essaye de lui proposer autre chose, il ne veut pas. Voilà.
Ah oui, la question sur les produits laitiers.
Oui, rapidement. Quels produits laitiers donner à son enfant quand on arrête ou quand on réduit l'allaitement maternel?
Alors dans l'absolu, vraiment dans l'absolu, il n'y a pas besoin. Enfin, ça dépend de l'âge, d'accord? Quand l'enfant est encore petit, il y a besoin d'un apport lacté maternel essentiel, enfin à privilégier et puis autre. Si nécessaire. Ceci dit, Après, une fois que l'enfant est sevré, je dirais, dans l'absolu, il n'y a pas besoin de produits laitiers. Culturellement, on en prend. On en voit beaucoup. On en mange sans même le savoir. Mais dans l'absolu, il n'y a pas forcément, c'est pas obligatoire. Voilà.
Oui, mais en fait, c'était par rapport, effectivement, si on leur propose, si on attend qu'ils soient assis pour qu'elles puissent, du coup, prendre d'elles-mêmes, finalement, comme c'est effectivement recommandé à partir de 4 mois, pour éviter aussi les allergies, si c'est donné trop tard, maximum 6 mois, voilà. Donc, bon, après, là, comme elle est allaitée, finalement, elle n'aura peut-être pas de risque d'allergie, mais est-ce que, donc, il n'y a pas ce passage, forcément, avant à la cuillère? Donc, mais bon, comme vous l'avez dit aussi, on verra bien d'elle-même si elle recrache ou pas. Mais effectivement, donc on pourrait attendre qu'elle soit effectivement assise pour vraiment après lui proposer à la main.
Je rebondis juste sur les 4 mois. Parce que vous avez dit que 4 mois pour la fenêtre d'introduction par rapport aux allergies. C'est très intéressant ce point-là. Alors déjà, juste pour information, dans l'histoire de la puériculture, la diversification alimentaire, elle a été de 1 mois à 9 mois, 10 mois. C'était des recommandations. Hein. Quand je vous dis 1 mois, c'était recommandé 1 mois. Quand je vous dis 9 mois, c'était recommandé 9 mois. Donc ça permet d'avoir un petit peu de recul par rapport aux 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et par ailleurs, c'est des études qui ont montré que la fenêtre 4-7 mois, c'était pour le gluten, précisément, et du coup ça a été élargi à tout, hein. Et ça montrait qu'il n'y avait pas d'effet délétère de commencer le gluten à partir de 4 mois. Mais ne pas avoir d'effet délétère ne veut pas dire c'est mieux de. Vous voyez, c'est une nuance. Et à partir de là, cette petite brèche de il n'y a pas d'effet délétère d'introduire le gluten à partir de 4 mois, ça a été la porte ouverte à « il faut commencer à 4 mois ». Vous voyez, c'est une nuance, mais qui est quand même de taille. Je ne sais pas si ça répond, mais...
Bonjour.
Ah oui.
Moi, je me posais la question, dans quelle mesure c'est faisable, en fait, au quotidien, quand on a une activité professionnelle à plein temps, quoi? Parce que de ce que j'entends là, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps, en fait, de laisser l'enfant jouer avec sa carotte, etc. Ben, il y a un moment donné, à midi, le soir, etc., je ne sais pas, hein, mais je me demande si c'est faisable.
Et je trouve que cette question, elle est pertinente. C'est la question de qu'est-ce que je fais avec le temps ? Enfin, ce que je veux dire, c'est que je trouve important que l'alimentation ne soit pas liée à une notion de temps, de performance, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que effectivement, en tant qu'adulte, enfin, autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui mangent très vite, trop vite. La satiété, elle a besoin de prendre un... Enfin, pour avoir la sensation de satiété, ça demande un peu de temps entre là... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, c'est une question que l'on peut se poser, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, dans notre société où le temps va hyper vite, comment on fait? Et ce n'est pas que la diversification alimentaire, c'est pour tout. Quel temps j'ai avec mon enfant? Et quel temps j'ai avec mon enfant autour de l'alimentation. Et ça, comment dire, c'est à chacun de trouver sa réponse. Mais la diversification alimentaire menée par l'enfant n'est pas forcément synonyme de plus de temps. C'est souvent synonyme de simplicité, de praticité et d'un regard porté sur l'alimentation qui change. Et sur l'enfant aussi. Je ne sais pas si ça répond, mais... mais c'est une question, hein. C'est vraiment une question pertinente. C'est-à-dire, dans notre monde où on court après tout, après le temps. Comment je vais... qu'est-ce que je vais faire avec ce temps-là qui m'est octroyée, entre guillemets.
Bonjour. Alors, ben, juste pour revenir à la question d'avant, en fait, je pense peut-être que ça ne prend pas plus de temps parce que ça nous permet de manger après, à côté. On lui met tout à manger, il se débrouille, et puis nous, on peut manger normalement. C'est, enfin, il joue avec pendant 20 minutes, et puis après, c'est bon, quoi, c'est fini. Enfin, c'est, voilà, 20 minutes pour nous, en tout cas, ça prend pas plus de temps. Voilà. Sinon, j'avais une autre question. Désolé. Donc, c'est par rapport à l'arrivée à la crèche. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de crèches qui font la DME. Et bah, nous, on joue avec la DME. Et c'était pour savoir s'il y avait des confusions ou pas avec l'enfant, des...
Ça, on a commencé il y a 15 jours la DME et d'ici à peu près 15 jours du coup il va rentrer à la crèche et c'est vrai qu'à la crèche où on va du coup elle va lui proposer, enfin les fruits elle pourra lui proposer mais enfin, ce sera quand même de la purée et du coup on se posait la question s'il pouvait avoir une confusion entre les deux voilà.
Bah, j'adore cette question parce qu'effectivement c'est la question que l'on peut se poser sur plein d'autres choses. Mon enfant, il ne va pas dormir de la même façon. Mon enfant ne va pas être changé de la même façon. Mon enfant ne va pas être nourri de la même façon. Mon enfant ne va avoir un vécu qui sera différent. Moi, je pense que en tant que parent, notre champ d'action, c'est le nôtre. Et effectivement, l'enfant va avoir deux façons de faire, mais comme pour tout, quoi. Je dirais comme pour tout. Après, vous pouvez amener la DME dans la crèche. En toute franchise, non. Non, parce que ça demande une certaine réflexion autour de ça. Parce que ça modifie quand même un peu. La maman qui disait « ça prend plus de temps », ça peut être perçu comme ça prend plus de temps. Parce qu'on va faire autrement. Parce que... Et effectivement, c'est... Donc oui, il y a peu.
Moi, j'ai quand même envie de nuancer un petit peu. Alors, on pourra en discuter. Juste par rapport à la crèche, je pense que c'est important de le leur dire. Et puis, pourquoi pas demander à commander un... à commander un repas de grand entre guillemets pour un petit qui classiquement aurait des purées parce que pour moi la DME est vraiment géniale, elle respecte l'enfant, c'est plus pratique pour nous aussi, c'est vrai, mais pour moi il y a quand même des règles de sécurité entre guillemets à respecter comme pour tout en fait. Donc pour moi la première règle ce serait qu'on donne toujours le lait avant aussi. De façon à ce que si jamais il y a une fausse route, il a quelque chose dans le ventre pour se dégager, en fait. Et la deuxième chose, pour moi, c'est vraiment une méthode de diversification, une méthode d'introduction des aliments. Et donc, moi, je ne suis pas trop d'accord que là, au tout début, qu'on mélange les deux et que l'enfant, il sait faire la différence entre les deux. À terme, oui, il pourra à la fois gérer les textures plus molles et à la fois des purées, etc. Et aussi des choses dures. Mais ce qu'il y a, c'est que les enfants, ils ont ce qu'on appelle le gag réflexe. Donc, c'est-à-dire cette tendance, quand il y a quelque chose qui vient au fond de la gorge, de pouvoir se faire dégager, de le sortir, voilà. À force de lui donner des purées, en fait, il va perdre un petit peu ce réflexe-là. Et de ce fait-là, pour moi, je trouve ça quand même important de lui donner uniquement des solides jusqu'à ce qu'il gère vraiment très bien la mastication. Et puis, à partir de là, on peut introduire aussi des purées. Donc, personnellement, dans un premier temps, j'essaierai de voir avec la crèche qu'il lui donne des textures solides jusqu'à ce qu'il gère vraiment. Et puis là, et oui, une fois, il pourra faire la différence. Voilà, c'est mon point de vue après ce que j'ai lu, ce que j'ai pratiqué aussi. Mais peut-être que vous avez d'autres informations.
Je trouve ça intéressant. Et effectivement, le fait de communiquer avec la crèche, mais que ça soit sur l'alimentation ou sur autre chose, est toujours source d'échange et d'enrichissement mutuel. Après, ça dépend des structures, etc. Ceci dit, je tiens quand même à rassurer dans le sens que la DME peut être aussi envisagée comme étant un peu des deux. Ce qui est le plus difficile pour l'enfant, c'est d'avoir un peu des deux au même moment. C'est-à-dire d'avoir une texture mi-figue, mi-raisin, où en fait, visuellement, ça fait un peu purée. Donc, comment dire, vous savez, l'information qui est donnée, c'est de la purée. Et en fait, d'avoir un morceau à l'intérieur. Et là, ouais, c'est là où c'est plus compliqué. Mais d'avoir l'information, comment dire, cohérente, purée, eh ben, l'enfant, il va... enfin, comment dire, voilà. C'est, dans la DME, souvent, il y a certains parents qui proposent aussi de la purée ou aussi de la compote. C'est pas... ça peut être, parce que effectivement, vous témoignez le fait que vous, ça a été vraiment un choix de donner que des morceaux jusqu'à ce qu'il ait vraiment acquis tout, bah, tout, toutes ses compétences pour bien mastiquer. Mais c'est pas que ça, ça peut être aussi ça.
Pour moi, c'est un peu le même débat que la confusion synthétine, en fait. Est-ce que je donne à la fois le sein et la tétine, ou est-ce, enfin, voilà, ou je pense que c'est un peu les mêmes choses qui sont en jeu. Et puis, bah, il y en a qui ont eu la tétine et il s'est jamais rien passé, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire que pour autant la confusion n'existe pas, ou est-ce qu'ils ont juste eu de la chance? Bah, pour moi, c'est un peu du même ordre. Est-ce que je mélange les deux ou pas? Bon, bah, voilà. Je pense que, enfin, pour moi, c'est important d'informer quand même des risques. Et puis ensuite, chaque parent prend son choix délibérément.
Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je serais ravie, de toute façon, je serai un peu à la table là-bas, donc si vous voulez me poser d'autres questions, échanger, ça sera avec grand plaisir. Merci de votre participation. Et puis, bah, écoutez, belle aventure avec vos enfants. Belle aventure avec vos enfants. Merci encore.
Merci.